Une édition 2020 des Assises du journalisme à Tours un peu particulière. Informée en temps de Covid, à la fois le thème de cette 13e édition et un exercice pratique pour les organisateurs de ces assises. Dans l'espace principal du centre MAM, où se déroulent ces assises, les conférences, masterclass et cartes blanches se déroulent pour beaucoup en visioconférence. Seulement quelques intervenants ont pu faire le déplacement en raison du contexte sanitaire particulier de cette rentrée 2020. Mais dans un petit bocal un peu en retrait, le réseau campus résiste encore et toujours à la Covid. Le studio mobile est installé, tout est prêt pour nos invités de la journée.
Alors bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct des Assises du journalisme de Tours. Actuellement sur le plateau nous recevons l'association J'ai d'encre qui est représentée par Pierre Emono et Pauline Lecouvet. Bienvenue sur le plateau
c'est nous.
De Radio.
Salut.
Donc nous sommes le jeudi 1er octobre et nous sommes en direct du MAM, enfin pas vraiment en direct du coup, mais on est au MAM à Tours. Les conférences sont en train de se passer, c'est le matin. Et donc voilà, on tenait à inviter J'ai d'encre, qui est une association assez proche du réseau Radio Campus et de Radio Campus Tours, si j'ai bien compris.
Il y a des liens.
Oui, il y a certains liens, notamment à Radio Campus Tours. Pauline Lecouvet, peut-être que tu peux nous en parler un petit peu, toi, de ton expérience et de ton parcours dans ces deux associations.
Ouais, tout à fait. Bah, moi, du coup, je suis bénévole pour J'ai d'encre et pour Radio Campus Tours. Alors, j'ai rejoint J'ai d'encre quand j'étais au lycée. J'avais un journal lycéen. Du coup, j'ai adhéré à J'ai d'encre, j'ai participé au concours. Et puis après...
Le concours Kaléidoscope.
Exactement. Et donc après, quand je suis devenue étudiante, bah, j'ai eu envie de passer de l'autre côté et de participer à l'organisation à J'ai d'encre. Et j'ai rejoint pour un stage d'un mois. Donc j'ai participé à la vie de l'asso pendant un mois, l'été 2019. Et puis du coup, l'année dernière, j'étais à Reims et j'ai fait de mon mieux pour essayer de lancer un réseau de jeunes journalistes dans la région Grand Est. Puis cette année, je suis dans la région Centre et j'ai essayé de faire pareil, en mieux.
Waouh, super! C'est génial! Non, pardon, on coupera au montage de ma voix de toute façon. Et du coup, oui, c'est la particularité un petit peu de J'ai d'encre d'être un réseau de jeunes journalistes. Je crois que.
Journaliste jeune, dans
notre. Journaliste jeune, pardon, j'ai inversé les mots, je n'ai pas encore tout le vocabulaire. Mais du coup, le principe, du coup, c'est d'accompagner, enfin, le principe du réseau, c'est d'accompagner et d'encourager. Les jeunes journalistes, les journalistes jeunes, Pierre Emono, peut-être que vous pouvez nous en parler un petit peu plus.
Bien sûr. bah oui, non, mais J'ai d'encre, c'est avant tout en fait un réseau de journalistes jeunes qui essaie de fédérer toutes les rédactions qu'il peut y avoir en France métropolitaine, et on essaye outre-mer, mais outre-mer c'est compliqué de les toucher, d'y aller surtout. Des financements, mais sinon à travers toute la France on a des rédactions de jeunes qui sont dans des collèges, dans des lycées, dans des missions locales, dans des MJC ou même en dehors de structures institutionnelles, qui font des médias, qui font du journal papier, qui peuvent faire de la radio, qui peuvent faire de la web TV, des médias en ligne, etc. Et donc J'ai d'encre, c'est un grand réseau de jeunes qui font des médias, et le but de l'association, c'est de promouvoir cette parole jeune, d'une part, de les aider à se rencontrer entre eux, de les aider, de les former pour leur donner toutes les clés pour s'exprimer le mieux via ce médium qui sont les médias. Et voilà, c'est d'abord ça, J'ai d'encre. C'est pour ça que j'en suis un mauvais représentant. C'est des jeunes qui ont entre 11 et 25 ans, et malheureusement, j'ai...
Ouais. Ce qui est important à J'ai d'encre aussi, c'est la formation par les pairs en fait. Mm. C'est que c'est des gens qui sont à la fois journalistes jeunes, qui vont former d'autres journalistes jeunes. C'est un super beau cycle.
Super projet que J'ai d'encre. Est-ce que vous connaissez un petit peu l'historique de cette association? Comment ça s'est formé? Est-ce que c'est justement des jeunes qui se sont réunis à un moment et qui se sont dit bon, va falloir faire quelque chose et on peut faire quelque chose au niveau national et créer un gros réseau? Ou c'est plus des profs ou d'autres gens, je pose la question.
Bah, J'ai d'encre en tant qu'entité, c'est créé en 2004, mais il faut savoir que l'idée d'avoir un réseau de journalistes jeunes, c'est plus ancien que ça. C'est-à-dire qu'on intéressant, une espèce de lignée d'associations qui ont été créées pour le coup par des jeunes. Je pense notamment à J-Press dans les années 90, qui essayait déjà de faire un peu le même travail et qui a plus ou moins disparu, je ne sais pas exactement dans quelles conditions, dans les années 2000. Et donc à ce moment-là, 2004, est né, en 2004 est né J-D'encre, deux personnes qui étaient à J-Press avant. Et là, pour le coup, c'était vraiment une initiative avec deux jeunes, pour les jeunes, par les jeunes, etc. Et on voit les âgés. Hier, j'étais dans les photos des âgés de 2004 et il n'y a pas une personne qui a plus de 25 ans, je pense pas. Enfin, ils n'ont pas l'air en tout cas. Donc, ça s'est créé en tout cas. Ça a été créé par des jeunes. Et aujourd'hui, âgés d'encre, de toute façon, c'est l'association est restrictive sur l'âge. C'est-à-dire que quand on a plus de 25 ans, on ne peut pas être bénévole âgés d'encre. Donc, les deux seules personnes qui sont plus de 25 ans, c'est les deux salariés de l'équipe permanente. Donc, c'est pour ça que je disais que. Moi qui suis salarié, je ne suis pas un très bon représentant au final de l'association. Moi, je suis là pour que l'association tourne.
Et justement, en quoi consiste ton poste, Pierre, dans cette association ? Ton rôle ?
Moi, je suis chargé de mission, formation et ancrage territorial. Donc j'essaye de travailler pour qu'on ait un maximum de ressources autour de la formation. Pour que justement les jeunes puissent se former entre eux, etc. Donc moi je travaille sur tout ce qui va être fournir des ressources pour que les jeunes apprennent des choses, etc. Donc les aider à construire des formations, des déroulés, les faire avec eux aussi, pour les accompagner quand c'est la première fois qu'ils font une formation, pour les rassurer, etc. Et aussi ancrage territorial dans le sens où en fait. J'ai donc créé pas mal axé sur l'événementiel, parce qu'on organise des événements qui permettent du coup aux journalistes jeunes et de se rencontrer et d'être formés. Et donc on a notamment des événements qui s'appellent les rencontres immédiates et qui sont des événements locaux, d'où le ancrage territorial, et qui réunissent sur une journée une soixantaine de journalistes jeunes qui vont être formés et aussi leurs accompagnateurs. Donc ça peut être des profs, des gens qui sont dans les missions locales, etc. Qu'on peut aussi former. Parce que, on forme et les jeunes et on forme des plus vieux en leur disant laissez tranquille les jeunes, les gens ont l'autonomie, comment accompagner. Donc on a tout un concept par exemple de accompagnateur biodégradable. J'aime bien l'expression, je trouve ça assez bien trouvé, dans le sens où un accompagnateur doit être là pour évidemment aider des jeunes à se former, à former un média, leur donner des clés, leur donner aussi une aide logistique par exemple quand c'est dans un collège ou un lycée, des choses comme ça, mais à terme. Le but d'un accompagnateur, pour nous en tout cas dans une conception d'accompagnateur, c'est de disparaître, donc d'être biodégradable, pour laisser la pleine autonomie aux gens.
C'est beau ce que tu dis.
C'est beau ou pas ?
C'est très très beau, on adore ici Radio Campus. En plus, on est partenaire d'un petit festival Kaléidoscope qui est très très chouette. Qui
récompense, un concours, c'est un concours
Kaléidoscope. C'est un concours, festival. Je mets des festivals partout, mais c'est un concours qui récompense du coup des initiatives de presse. Cette année, j'ai eu la chance d'écouter des super productions de création sonore et des documentaires et d'émissions. C'était vraiment chouette. Du coup, je me demandais un peu comment ça s'est passé pour vous. Je rattache du coup la question au thème d'aujourd'hui, des assises, qui est le Covid, le journalisme et le Covid, quoi. Comment ça s'est passé pour vous ? Est-ce que vous avez réussi à développer un peu des solutions à distance pour assurer vos formations, les événements, j'imagine que ça a été remis en cause. Est-ce que vous avez trouvé des nouvelles inspirations dans cette période ou alors vous êtes complètement déprimé ?
On a d'abord été déprimé comme tout le monde. on a essayé de faire des choses. On a les événements dont je parlais, les immédiats, le confinement a commencé, je crois, deux semaines juste avant, les deux immédiats qu'on avait prévus à Clermont-Ferrand et à Lyon. Donc ça, c'était un peu triste, on n'a pas pu les faire ni rien. Par contre, c'était trop à court terme pour basculer sur du numérique ou quoi que ce soit. Par contre, on a notre festival Expresso. Peut-être que Pauline, tu veux parler de comment c'est Expresso en temps normal, à peu près. Tu vois ce que...
Alors, Expresso en temps normal, c'est une grande fête. Bah, d'ailleurs, Radio Campus est aussi partenaire d'Expresso, vu que...
Oui, bien sûr.
Mélissa a été là il y a l'année dernière, il semble, à Graffel. Et donc, c'est une grande fête où tout le monde lance des feuilles pour récupérer des sujets, pour faire les sujets les plus rapidement possible. On a un temps imparti, personne ne dort. Expresso, parce qu'on boit beaucoup de café. Et là, du coup, c'était en ligne, mais tu vas plus pouvoir nous en parler.
Ouais, bah voilà. Donc, du coup, normalement, c'est dans un grand gymnase à Paris, entre 14h et 6h du mat. Donc, des jeunes qui écrivent... qui font de la radio, etc. Et donc c'est une grande fête, il y a plein de gens, comme tu disais, Pauline. Et donc cette année, on a essayé de faire ça en ligne, parce que comme c'est comme un événement un peu, je dirais, fondateur de l'association, en tout cas, c'est quelque chose qui est très, très apprécié par tous les bénévoles et les adhérents. On a décidé d'en faire une version en ligne qu'on appelait e-expresso. Voilà, on est toujours dans les jeux de mots, le café expresso, e-expresso, on est vraiment méta, quasiment. Et donc voilà, on a fait quelque chose sur la plateforme Discord où, dans le même thématique, donc c'est un espèce d'hackathon où en fait on balance des sujets. Donc là, on n'a pas terminé à 7h du mat, on a terminé à minuit. Mais voilà, on a donné des sujets, les gens étaient dans des channels de discussion répartis entre rédactions et ils ont produit des choses et ça a fonctionné. Alors évidemment, ça n'avait pas la saveur que ça peut avoir en direct live et en physique. Mais bon, voilà, les gens ont au moins pu participer à un semi-expresso, je dirais. Et on a eu des retours plutôt positifs. Et c'était assez cool d'organiser ça. On avait un petit stream aussi sur YouTube qui faisait le fil rouge. Normalement, à Expresso, il y a une scène où tous les sujets sont annoncés, où il y a des espèces d'interventions, etc. Et donc, on avait reproduit un peu cette scène de manière virtuelle. D'accord. Et donc, voilà, on avait tenu un petit stream la journée. Donc, c'était assez cool. Au final, ça s'était bien passé. Même.
Ok. Et puis, le confinement, ça a aussi impacté les rédactions jeunes, les journaux jeunes. Moi, ça, je peux plus en parler parce qu'après, ma mission de coordinatrice du Grand Est, du coup, les lycées, c'était fermé et tout, donc c'était un peu caduque. Par contre, pour moi, mon expérience perso en tant que journaliste jeune, j'ai vu qu'on a quand même réussi à réinventer des petites choses. En particulier, moi, j'avais une radio étudiante, et on a fait les émissions sur Zoom. Et en fait, ça fonctionne très bien. Et en fait, cette année, même si on pourrait les faire en présentiel, comme on est un peu répartis partout en France, on continue à les faire sur Zoom. Donc finalement, on a appris des choses.
Oui, c'est assez enthousiasmant. Et puis surtout pendant cette période confinée, c'était quand même cool de pouvoir continuer à bosser et à faire de la radio, parce que c'est quand même super. Et je me demandais juste, dernière question, est-ce que ça a amené chez vous je parle aussi personnellement, mais au niveau de l'association aussi peut-être, des réflexions sur les utilisations du numérique, l'éducation au numérique aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle dans le cadre, et qui parle encore plus peut-être dans le cadre de tout ça?
Le numérique, c'est trop bien et ça a d'énormes limites, quoi. C'est ce qu'on se dit tout le temps. Le numérique, c'est trop bien parce qu'en effet, ça permet... nous, on a fait des formations pendant le confinement où on a touché des rédactions qu'on ne connaissait même pas. Il y avait des rédactions du sud de la France qui étaient en même temps dans les mêmes formations que du nord de la France. Du coup, il y a des jeunes qui ont discuté qui normalement ne peuvent pas se rencontrer en physique, etc. Ça, c'est trop, trop cool, quoi. Le numérique, ça, c'est trop cool. Le gros problème numérique, pardon, c'est la limite dans le sens où il y a plein de gens qui n'ont pas accès, plein de gens qui ne savent pas du tout l'utiliser. On a passé beaucoup de temps à expliquer comment utiliser Discord, etc. Il y avait plein de gens qui ne pouvaient pas participer parce qu'ils n'avaient pas de connexion Internet chez eux. Ou alors, leurs parents, par exemple, étaient en train de travailler à la maison, donc ils pompaient toute la connexion et donc, du coup, ils ne pouvaient pas se connecter. Enfin, voilà, il y avait de grosses problématiques en termes d'accès et de savoir-faire d'utilisation via le numérique. Et ça, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire du tout numérique, quoi. C'est pas possible. Ce serait trop inégalitaire. Donc, voilà, le numérique est très intéressant. Et on peut en faire plein de choses, et ça, c'est cool. Mais il faut bien avoir conscience de ses limites pour pas se dire « Allons au tout numérique, ça va être trop cool. » C'est pas vrai.
Et puis, c'est cool de se rencontrer en physique aussi.
Et bienvenue donc aux collégiens du lycée Lamartine. Est-ce que vous pouvez vous présenter d'abord?
Alors, moi, je m'appelle Jalil, je suis élève de 3e, et je fais partie de l'atelier journal.
Bonjour, moi, je m'appelle Louis, et je fais partie de l'atelier journal, et je suis en 4e.
Maëlle Bailly, 5e A, Collège Lamartine.
Bonjour, je m'appelle Aïssatou et je suis au Collège Lamartine en 4e C.
Moi, c'est Lilou Prex, 5e C, et puis je suis au Collège Lamartine aussi.
Et moi, je m'appelle Gabin et je suis au Collège Lamartine, je fais partie de l'atelier journal et je suis en 4e.
Alors, vous avez parlé d'un atelier journal, comment il s'appelle ce journal?
Il s'appelle Lola Martins, ça va bientôt devenir une web radio.
Super, mais alors pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui?
Si on est là, c'est parce que des fois on fait des sorties pour s'informer, enfin après c'est mon avis, enfin c'est pour être plus informé, découvrir des nouveaux sujets pour en parler après dans le collège.
Mais alors vous êtes en lice pour un prix aujourd'hui, non?
Oui, mais moi j'irai pas, c'est les autres.
Alors quelqu'un peut m'en parler?
Allez.
Je crois qu'on est nominé pour un prix du journalisme.
Nous sommes nominés pour le prix EMI, l'éducation aux médias et à l'information.
Pour vous, ça représente quoi d'être nominé à un prix dans des assises du journalisme avec des professionnels journalistes?
Ça ne m'est jamais arrivé. Du coup, je viens pas.
Pour moi, pour ma part, c'est un grand honneur qu'on nous invite, nous, petit journal du Collège Lamartine.
Mais alors racontez-moi, qu'est-ce qu'il a de spécial, votre journal? Qu'est-ce que vous écrivez à l'intérieur?
Toutes les choses que veulent nos journalistes, ce qui leur donne envie et ce qui peut être en rapport avec l'actualité, des sujets intéressants à traiter.
Alors vous avez écrit quoi récemment, vous personnellement?
On n'en a pas refait depuis l'année dernière, mais je me souviens que l'année dernière, on avait parlé beaucoup d'écologie, parce que c'est un sujet assez... Oui, et puis il y a beaucoup de sujets là-dessus, parce qu'il y a plein de choses à faire et tout ça, qui ne sont pas faites. Et on a aussi parlé de choses qui, par exemple, arrivent dans le collège ou pas loin. Par exemple, quand on a rencontré Harry Roselmack, eh bien, on en a fait une rubrique dans l'article.
Et alors, pourquoi est-ce que vous avez eu envie de rejoindre le club journal de votre collège? Dis-moi.
Non, mais c'était pour revenir sur la question de ce qu'on diffusait sur notre journal. Déjà, les actualités comme... les tendances du moment et tout ce qui marche chez les élèves, par exemple
ce qui concerne le collège aussi.
Par exemple les jeux vidéo qui est beaucoup pratiqué par les élèves.
Des actualités, des choses qui viennent de sortir. Mais on essaye aussi d'être un peu original, de pas trop dire la même chose non plus.
Surtout tenir au courant parce que tout le monde n'écoute pas la radio ou ne regarde pas la télé tout le temps. Donc en fait, vu que le journal étant gratuit, ça permet à tous de pouvoir se tenir informés et d'avoir l'information à disposition.
Pour toi, c'est un moyen de relayer l'information que tu entends dans d'autres médias à tes camarades ?
C'est ça. Retransmettre plus facilement... aux élèves qui n'ont pas eu l'information.
Et toi, qu'est-ce que tu as écrit récemment dans le journal, par exemple?
Alors, moi, en ce moment, j'ai beaucoup parlé d'écologie, etc. Un peu comme ça. Et j'ai fait des articles avec quelques copains sur des objets techniques. Et puis, voilà. Depuis l'année dernière, c'est tout ce que j'ai fait. Enfin, j'en ai fait d'autres, mais je me rappelle plus trop. Je crois que j'ai fait des petites devinettes aussi pour la rubrique jeu de la fin du journal.
Et alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de venir au Club Journal?
J'avais entendu dire que c'était bien, qu'on faisait pas mal de choses, et je me suis dit que fallait tester pour voir un peu ce qui pouvait se passer, et pour peut-être mon avenir, je sais pas trop, mais peut-être, on verra.
Découvrir de nouvelles choses, aller voir les activités qu'on propose et puis expérimenter.
Et il y a d'autres raisons qui vous ont poussé à venir? C'est des copains qui vous ont dit peut-être « Ah, j'ai fait ça, c'est trop bien
». Moi, c'est plus parce que ça avait l'air intéressant et je voulais voir un peu comment c'était. Du coup, je me suis inscrite.
Alors, moi, j'en ai entendu parler quand j'étais en 6e. Du coup, j'avais envie d'essayer. Des camarades m'en ont parlé, et les professeurs aussi. Et du coup, là, j'essaye à mon tour de convaincre d'autres élèves de se lancer dedans.
Et par exemple, le Collège de Lamartine, il propose des activités comme ça, par exemple l'atelier cinéma et l'atelier journal, qui sont qu'on ne propose pas dans tous les collèges. Et ça permet de... C'est cool.
Et puis du coup, vous venez aux Assises aujourd'hui. Vous avez pu assister à la masterclass de Jamy ?
Oui, c'était...
Très intéressant.
Vous avez posé des questions ?
Moi et Louis.
Alors qu'est-ce que vous avez posé comme question ?
Moi, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il ressentait par rapport à ce que son nom soit énormément affilié à C'est pas sorcier.
Et moi, j'ai demandé où sont les maquettes, parce que ça faisait 19 ans qu'il faisait des maquettes pour C'est pas sorcier. Alors ça doit en faire quand même une bonne... Il y a environ une dizaine de maquettes par C'est pas sorcier. Ça doit faire beaucoup quand même.
C'est vrai que ça fait beaucoup là. Et alors, vous avez prévu de voir d'autres choses ici. Qu'est-ce que ça représente pour vous de venir aujourd'hui? C'est toujours sympa de faire une sortie scolaire, mais c'est sympa aussi de venir avec les camarades du club journal, pas forcément les camarades de votre classe.
Oui, c'est très sympa, oui.
C'est très intéressant parce que ça nous permet de découvrir le monde du journalisme en plus, à part de notre... Ça nous sort de notre petit cocon, on va dire. Et ça nous permet de voir plus grand et de ce qui se fait dans le journalisme.
Et puis ça vous permet de venir parler dans un micro. C'est la première fois pour vous ? Tu m'as dit, vous faites une web radio aussi.
Ça va être mis en place cette année. C'est en train d'être mis en place. Et on a été interviewé il y a quelques...
Deux semaines. Par Cité Radio.
Et alors c'était comment ? Vous aimez bien parler dans le micro, c'est pour ça que vous lancez une web radio ?
Pour moi c'était un peu gênant au début, mais après... j'étais un peu stressée.
Non, t'es super à l'aise.
Oui.
Moi, clairement, c'était une expérience incroyable car c'était super intéressant. Et ça donne envie de continuer.
Alors, qu'est-ce que vous voulez faire sur votre web radio ? Tiens, dis-moi.
Alors, sur le sujet de la web radio, je suis pas trop informée sur ça. Enfin, je savais qu'on allait en faire une. Après, sur les sujets qu'on va aborder, je ne sais pas trop encore ce qu'on pourrait faire. Je pense qu'on va continuer à parler des actus du collège. Peut-être qu'on pourrait faire des interviews de professeurs. Je me suis dit qu'on pourrait faire ça, ça pourrait être assez intéressant.
Des débats.
Des débats aussi.
C'est stylé, les débats.
Ah ouais ? Ça t'intéresse beaucoup ?
C'est marrant de mettre son avis de tout le monde et puis d'en tirer une conclusion et de savoir ce que pensent tous les autres. Et puis, on se rassemble. Enfin, avec le Covid, c'est pas... Mais c'est marrant. Je trouve de parler d'un même sujet avec l'avis de tout le monde, ça permet d'enrichir ses connaissances et de partager un moment ensemble. Et voilà.
Ça a l'air super, votre web radio.
Alors, excusez-moi, je m'incruse dans la conversation. Je vois que vous êtes venu avec trois dames. Il y a trois personnes qui vous accompagnent. Est-ce que vous voulez nous les présenter, nous expliquer qui sont ces dames et comment elles vous accompagnent autour de ce projet du journal ?
Louis.
Nous avons notre professeur de mathématiques,
Madame Laporte,
qui est cofondatrice du journal Le Lamartine avec Madame Pau, ancienne professeure du collège Lamartine. Et nous avons notre documentaliste qui nous a rejoint l'année dernière dans le journal, Madame Giraudon.
Alors comment ça se passe en fait ? Comment elles vous aident, ces trois personnes, pour fabriquer le journal ? Quels conseils elles vous donnent ? Quels ateliers elles proposent ?
L'année dernière, parce que du coup maintenant ce sera un web radio, mais elle nous disait, nous demandait ce qu'on voulait faire comme type d'article. Et en fait, à la base, elle voulait qu'on soit un peu autonome, mais elles étaient là pour aider. Il y avait des jeunes, des élèves qui notaient par exemple les thèmes. Eux, ils nous aidaient plus à corriger ou alors à nous dire des thèmes, quoi noter, de quoi parler sur notre thème de base. Ils nous aidaient bien, en vrai. Puis c'est pour l'impression, nous, on pouvait pas trop faire ça. Du coup, ils sont là pour ça aussi.
On saisissait le texte sur informatique, venait derrière et corriger les fautes, reformuler les phrases et dire. J'ai eu un problème grammatical. Elle reformulait, elle mettait les petites choses à rajouter si c'était nécessaire pour préciser et que ça soit plus peaufiné et propre.
Ça nous encourageait aussi, moi. Je sais pas, ça m'encourageait. Puis je ne déteste pas mes profs.
Ça dépend desquels.
Favoritisme.
Eh bien, merci. Alors, juste une question. Vous expliquiez tout à l'heure aussi que c'est un journal qui est gratuit. Alors, à votre avis, il est lu seulement par vos camarades dans le collège? Il est lu par les parents? Ou est-ce qu'il est lu aussi par d'autres personnes?
À propos de ça, j'ai posé une question il n'y a pas longtemps, mais je vais laisser parler d'autres personnes, car je parle beaucoup trop.
Je sais que le journal est distribué aux élèves volontaires quand on est en classe, et certainement aussi à l'administration et aux professeurs qui le souhaitent. Et comme ça, ça permet un peu à tous ceux qui désirent de pouvoir s'informer par notre journal.
Moi, je l'ai ramené à mes parents pour que ça leur fait quelque chose à bouquiner au lit.
Eh bien, merci. Alors, j'espère qu'on aura le plaisir de vous entendre bientôt en web radio. Elle commence quand, votre web radio?
On ne sait pas encore. On n'a pas encore eu le temps de bien se mettre d'accord sur...
Mais on en a parlé.
Oui.
Normalement, elle devrait commencer dans très peu de temps, on espère, parce qu'on doit nous prêter du matériel, mais on n'en a pas encore.
En tout cas, j'ai hâte de commencer.
C'est Courteline qui nous loue, qui nous prête le matériel, du coup, gratuitement, je précise.
Voilà, bon, merci au Centre Social Courteline. Pauline, je te rends le micro.
Et puis on a hâte de vous écouter sur votre web radio. Merci.
Merci à vous aussi.
Ça me fait très plaisir aussi.
Alors, il y a des casques à votre disposition. Je ne sais pas si c'est Covid-proof, mais vous pouvez vous en saisir. Voilà, on a des lingettes... pour les désinfecter après utilisation, parce qu'évidemment, nous avons pensé à tout. Alors, ces assises du journalisme masqué, et là, je reçois deux personnes pour parler de Mondoblog. Simon de Creuse, Steven Jambeau.
Eh ben, moi, je fais partie des fondateurs de Mondoblog, qui va bientôt avoir 10 ans. Et moi, à la base, comme je suis réalisateur radio, je suis plutôt sur, on va dire, l'aspect artistique et technique. Et j'ai gardé un peu cette fonction à l'intérieur de l'organisation Mondoblog. Ben, Mondoblog, c'est un projet qui est né il y a un peu plus de 10 ans dans la tête de Philippe Couve, avec qui j'ai fondé l'Atelier des médias, une émission de Radio France Internationale, radio diffusée dans le monde entier qui s'adresse à tous les francophones, mais aussi à plein d'autres gens dans plein d'autres langues. Et son idée, c'était de... Il avait fait pas mal d'expériences de formation internationale et il se retrouvait par exemple à aller au Burkina Faso former des journalistes, au Sénégal former des journalistes. Et il s'était rendu compte en fait que ces gens qui formaient ne venaient pas pour apprendre à faire de nouvelles choses et à s'emparer d'Internet, mais il venait juste pour toucher de l'argent. Parce que quand on fait une formation en Afrique, généralement on touche des perdièmes, on touche de l'argent. Et donc ces gens qui sont extrêmement mal payés en tant que journalistes sur le continent africain, finalement, ne venaient pas apprendre de nouvelles choses, mais ils venaient toucher leur cachet. Et un soir, en rentrant dans un cybercafé, il s'est rendu compte qu'il y avait plein de jeunes qui, eux, payaient Internet dans les cybercafés pour pouvoir apprendre à servir des outils Internet et pour s'exprimer en ligne. Et il s'est dit, en fait, il faut que j'arrête de former les journalistes qui viennent alors que Internet ne les intéresse pas, mais il faut que je forme les gens qui s'intéressent naturellement et qui ont des choses à dire. Et donc, un peu après, après avoir réfléchi ce projet, est né Mondoblog, qui est une plateforme de blogueurs francophones. on va dire à peu près tous les ans, mais c'est pas vrai, parce qu'on a 7 saisons en 10 ans, on recrute une centaine de blogueurs. Ça peut être des gens qui ont déjà de l'expérience ou des gens qui commencent. L'important, c'est de savoir écrire, c'est d'avoir des choses à raconter. Et c'est 100 personnes qu'on recrute par an. On va les accompagner à distance pendant, au départ, au moins 6 mois en étant très proche d'eux. Et puis après, on va les accompagner de façon un peu plus distante. Mais l'idée, c'est de former une communauté de gens qui s'expriment par la même langue et qui ont comme dénominateur commun d'être dans l'action, en fait, de faire des choses, de vouloir prendre la parole, de vouloir s'exprimer, de défendre des combats.
Et alors, Steve Jambeau, qu'est-ce que tu fais, toi, pour le blog ?
Alors, en fait, moi, j'ai fait des études de journalisme. J'ai fait l'école de journalisme de Toulouse. Mais avant ça, j'avais fait des études d'histoire et j'étais à Paris pendant le CPE. Et à ce moment-là, c'est là que j'ai commencé à faire de la radio et à faire Radio Campus Paris. J'ai fait une météo des facs pour parler des blocages des facs pendant le CPE, raconter quels étaient les enjeux de ce projet de loi à l'époque. Et poursuivi sur des écoles de journalisme, et arrive ce moment où on doit faire des stages, où on cherche des médias ou faire des stages. Et moi, j'étais déjà très intéressé par l'international, et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai sollicité Philippe Couve, dont Simon vient de parler, pour faire un stage en radio à l'Atelier des médias de RFI, donc une émission qui réfléchit aux évolutions, révolutions des médias. Ça, c'était il y a une douzaine d'années maintenant, donc Mondoblog n'était pas encore lancé. Et j'ai poursuivi mon bonhomme de chemin en journalisme, multipliant les expériences à gauche à droite. J'ai bossé aussi bien à France 24 qu'à C'est à vous à l'époque d'Alessandra Sublet, qu'à Courrier International, que Newsring, un site de débat en ligne qui est mort maintenant, mais qui était sous la direction éditoriale de Frédéric Taddeï. Voilà, et il y a 2 ans maintenant.
Les Mashable.
Et oui, j'ai géré Mashable avec France 24. Mashable, c'était un site américain qui s'intéresse aux nouvelles technologies et qui s'adresse à la génération connectée, aux Digital Natives. Et c'est une expérience qui a duré 2 ans, dont j'étais le rédacteur en chef. De la version francophone qui était lancée en partenariat avec France 24. C'est une aventure qui a duré que 2 ans, et quand cette aventure s'est arrêtée, eh bien ça coïncidait avec le départ de Ziad Maalouf, qui avait pris la suite de Philippe Couve à l'Atelier des médias.
Et avec qui on a monté Mondoblog, puisque c'est une idée de Philippe Couve, mais Philippe Couve était déjà parti d'RFI quand le projet Mondoblog a été financé. Donc c'est avec Ziad qu'on l'a mis en œuvre en réalité.
Voilà, et Ziad, après plusieurs années de bons et loyaux services, a décidé de partir sur d'autres aventures. Et c'est à ce moment-là que je me suis positionné pour reprendre cette émission en le faisant avec Simon et en me disant « Ok, il y a l'émission de radio chaque semaine qui s'intéresse aux évolutions, révolutions des médias, mais il y a aussi derrière le projet Mondoblog, qui est un projet annexe, mais qui est en même temps un projet passionnant qui donne à entendre des gens qui ont des histoires à raconter. Et si on fait ce métier, si je fais ce métier de journaliste, c'est pour justement rencontrer des gens et raconter des histoires. Et donc, en reprenant l'émission, je me suis dit, en fait, ce serait bien qu'on les entende, ces Mondoblogueurs, dans l'émission. Et puis, on a un petit peu réfléchi à la façon de le faire. Et chaque semaine, on s'est imposé de faire ce qu'on appelle un Mondoblog audio. C'est-à-dire que chaque semaine, on a fait une émission de radio, et que cette émission de radio, généralement, elle a un thème ou une dominante, et qu'en rapport avec ce thème, on essaye de trouver un billet de blog existant déjà sur Mondoblog. Et j'ai envie de dire, c'est assez facile, parce qu'il y a eu des dizaines de milliers de billets de blog qui ont été publiés depuis 10 ans.
Ouais, il doit y en avoir 13 000, en fait.
Voilà. Et donc, quand on trouve et quand on identifie un ou plusieurs billets qui sont dans la thématique qui nous plaisent, on contacte le blogueur ou la blogueuse et on lui demande de nous en faire une version audio, qui nous est envoyé des quatre coins du monde. Le blogueur ou la blogueuse s'enregistre avec son smartphone et nous envoie le son via WhatsApp, sous forme de note vocale, en fait. Et comme ça, on récupère ce son-là et on le met en fin d'émission avec de l'habillage, donc un peu de musique derrière, quelques petits éléments de lancement, puis de pied. Et ça donne à entendre des voix, des accents, des propos, des écritures du monde entier à une audience internationale. Et là, on se dit, OK, donc le projet continue encore à évoluer.
Toi, Mélissa, tu sais qu'en 2020, on fait des déclarations d'intérêt. Donc, il faut que tu te dises ton rapport à Mondoblog. Tu ne peux pas laisser les auditeurs comme ça croire que tu es complètement extérieur à cette aventure.
Vas-y, on me prend en otage au micro, c'est pas grave, je mets un marqueur et je couperai ça discrètement au montage. Que cette communauté de blogueurs francophones, il y a des gens qui sont journalistes, il y a des gens qui ne sont pas journalistes, il y a des activistes, il y a des gens qui sont avocats, engagés dans la politique, il y a des mamans au foyer, il y a des étudiants, enfin c'est extrêmement varié. Et peut-être que vous aimeriez aussi nous dire sur quelles aires géographiques on retrouve ces blogueurs. Parce que quand on pense francophone, on se dit tiens, vaguement l'Afrique, mais c'est plutôt quelle aire géographique ?
Ah, c'est... En fait, de toute façon, on est lié aussi aux médias. C'est-à-dire que RFI étant une radio internationale, les gens qui ont été au courant de l'existence de Mondoblog sont d'abord les auditeurs de RFI. Donc on a l'audience de RFI, je vais dire des chiffres un peu approximatifs et qui ont dû vieillir un peu, mais à plus de 60%, c'est l'Afrique francophone. Il doit y avoir 20% d'Afrique dans d'autres langues, donc à savoir l'anglais et le portugais. Et il reste 20%, c'est le reste du monde. Donc on est quand même vraiment une radio à grosse majorité africaine. Mais on a des Canadiens, on a beaucoup d'Haïtiens. Il y a un rapport avec la langue française en Haïti qui est assez puissant, qui est très exceptionnel. Et après, sur le continent africain, on va avoir beaucoup de blogueurs au Cameroun, en Côte d'Ivoire et au Congo. C'est vraiment les trois pays qui dominent. Et après, il y a tous les autres pays. Un petit peu le Maghreb, mais on n'a jamais été très, très diffusé dans le Maghreb. RFI n'est pas écouté dans le Maghreb.
En fait, ce qui est intéressant, ce qu'il faut que les auditeurs sachent, c'est que RFI, c'est l'audiovisuel public de la France, au même titre que Radio France. Mais ce n'est pas dans le groupe Radio France. C'est-à-dire qu'il y a Radio France avec France Info, France Culture, France Musique, FIP, etc. etc. Move qui s'est lancé à Toulouse d'ailleurs, partenariat avec Radio Campus Toulouse, les deux médias ont grandi ensemble jusqu'à ce que Move parte sur d'autres cieux. Et il y a aussi France Télévisions, donc France 2, France 3, etc. etc. Et RFI, c'est l'audiovisuel public, donc c'est payé par la redevance. Chaque Français qui paye sa redevance paye cette radio. Mais RFI n'a qu'un émetteur en France qui émet sur la région parisienne, 89 FM. Par contre, rien qu'en Afrique, RFI a plus de 130 émetteurs. Des émetteurs qui sont un pays comme la République démocratique du Congo, par exemple, qui est un des poids lourds du continent africain et de l'Afrique francophone. En Afrique centrale, il y a, rien que dans ce pays, il y a une dizaine d'émetteurs de RFI, par exemple. Des émetteurs qui couvrent des zones très très vaste et RFI est dans des pays dans lesquels parfois il n'y a pas de radio d'information vraiment publique de qualité, souvent les médias sont privés ou alors sont aux mains de l'État et donc c'est la seule radio refuge sur laquelle on va trouver de l'information de qualité et ça le français lambda n'en a aucune idée, ne connaît pas la puissance de RFI, ne sait pas par exemple que la matinale de RFI est plus écoutée que la matinale de France Inter chaque jour. Mais c'est juste que ce sont des auditeurs qui sont à l'autre bout du monde. Quoi. Et pourtant, chaque Français paye ça. Mais même le législateur français n'a aucune idée, les parlementaires français n'ont souvent aucune idée de la puissance des RFI dans le monde entier. Quoi. Sauf ceux qui voyagent beaucoup et qui se retrouvent dans un pays où quand on allume la radio, on a RFI. Quand on allume la télé, on a France 24. Et que là, on se dit, OK, il y a une audience là, il y a quand même des gens qui écoutent ces médias. Quoi.
Mais alors, pardonnez-moi cette question peut-être un peu bête, mais le service public français au Cameroun, au Maghreb, voire à Madagascar ou je ne sais où, est-ce qu'on ne peut pas aussi parfois entendre des choses comme « Ah, c'est du néocolonialisme » ou des choses comme ça ?
Ouais, ouais, si. Historiquement, de toute façon, c'est une radio qui s'appelait La Coloniale. Donc c'était... Et d'ailleurs, c'est... On a presque inventé la FM en France pour ce type, enfin pas la FM, mais ça doit être les grandes ondes ou un truc comme ça, mais ça a quasiment été inventé d'abord pour La Coloniale avant d'être inventé pour Radio France. Là, on est en 2020, il s'est passé plein de choses. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que je vais être obligé de schématiser un peu, mais si on schématise l'univers français des médias. On voit assez bien qu'on a des médias privés qui appartiennent à des industriels. qui jouent un peu de leur influence à travers leurs médias, mais pas plus que ça. Enfin, on sait que le Figaro va pas taper sur les ventes d'armes. Et à contrario, on sait que Libération va pas taper sur la gauche. Mais le service public, à l'intérieur de ça, souvent représente une vraie alternative un peu altruiste ou avec un devoir d'information, quelque chose d'assez noble. Et quand on compare au paysage audiovisuel dans une grande majorité des pays africains, en réalité, déjà, il y a beaucoup moins de médias. Quand c'est des médias privés, ils appartiennent très très souvent à des gens qui appartiennent à l'opposition, qui sont beaucoup plus extrêmes dans leur façon de biaiser l'information que nos médias privés à nous. Et les médias publics sont des médias d'État, mais au sens propagande. C'est-à-dire que quelqu'un qui travaille dans le service public en Afrique n'est pas quelqu'un qui peut dire du mal du président. Ce que nous, on peut encore faire. Donc, nous, on arrive, en fait, avec un journalisme qui est complètement factuel. C'est quelque chose qui peut paraître un peu austère quand on écoute RFI, mais en réalité, c'est le meilleur moyen d'être utile.
C'est une radio où il n'y a pas d'éditorialiste ou d'émission de commentaires, en fait. Et il y a un savoir-faire qui est intéressant, c'est qu'il est aussi copié ou repris en langue locale par pas mal de radios africaines. Il y a des émissions sur RFI participatives qui sont un peu des marqueurs de l'antenne. L'émission, par exemple, de Juan Gomez, qui s'appelle « Appel sur l'actualité », c'est l'équivalent du téléphone sonne sur France Inter. C'est de la radio ouverte, en fait, de la libre antenne, d'ailleurs, très régulièrement. Ces émissions-là, on s'est rendu compte, nous, RFI, qu'elles étaient reprise et reproduite sur plein de radios locales en Afrique dans la langue locale. C'est pour ça qu'RFI, de plus en plus, est en train de développer des langues africaines. Il y a le mandingue qui existe, le peul, le swahili, etc., etc. On est en train de multiplier toutes ces langues-là. Et aussi, ce qui est plutôt plaisant à voir, nous, c'est de voir que, mine de rien, on a un succès d'estime de la part des professionnels de l'information en Afrique. Et que RFI ne manque jamais de soutenir, d'appuyer aussi par différentes initiatives et de les mettre en valeur. Quoi.
Donc pour l'instant, pour finir de répondre à ta question, on ne peut pas se considérer comme un média néocolonial parce qu'on était historiquement colonial et qu'on l'est de moins en moins en réalité, et puis on n'y est plus, qu'on remplit une fonction qui n'est remplie par personne d'autre dans ces pays-là. Que c'est sûr, en fait, et puis je mens pas, hein, la majorité des gens qui travaillent à RFI sont dans cette espèce d'esprit qui est indéfinissable de dire on travaille pour un service public international. Service public, par définition, c'est national. Donc on calque l'idée du service public qu'on a en France, mais on le calque sur d'autres pays. Et donc peut-être que c'est un péché originel de RFI, mais on sait qu'on remplit une fonction, on sait qu'on le fait avec bon fond, et des fois l'enfer est pavé de bonnes intentions. Le seul truc qu'on pourrait reprocher à une radio comme RFI, c'est d'être puissante, toujours en 2020, et que fatalement, avoir un média puissant qui est un média étranger, puisque en fait on arrive à être dans le rang des trois premières radios les plus importantes du pays, alors qu'on est une radio internationale. Si on devait comparer, c'est comme si la BBC était numéro 3 en France. Ce ne serait pas imaginable de voir ça en France. Et donc, fatalement, cette place importante qui est prise par un média international dans plein de pays africains, c'est de la place en moins pour des gens qui voudraient faire une radio comme la nôtre.
Quand on parle de ce rapport aussi néocolonialiste, moi j'ai bossé aussi bien à France 24, donc côté télévision de l'audiovisuel public extérieur, que RFI, et jamais il n'y a eu d'intervention en conférence de rédaction du Quai d'Orsay ou du gouvernement français nous disant il faut faire ceci ou ne pas faire cela. Quand on se restreint de traiter un sujet ou quand on y va vraiment avec des pincettes, c'est qu'il y a des dangers pour des personnes, au premier rang desquels nos correspondants. que évidemment on fait gaffe à la vie de nos correspondants qui parfois peut être menacée dans certains pays. Et la puissance de ce réseau de correspondants est essentielle aussi, est un marqueur de RFI. C'est-à-dire que on n'est pas un média qui, comme BFM TV par exemple, quand il se passe quelque chose quelque part dans le monde, va dépêcher une équipe. On a dans la quasi-totalité des pays du monde, on a un correspondant, deux correspondants, trois correspondants, parfois des numéros 1, des numéros 2, des numéros 3. Dans certains pays, nous avons même ce qu'on appelle des envoyés spéciaux permanents, des gens qui sont postés dans ce pays pendant généralement 4 ans. Voilà, donc c'est le cas aussi bien à Jérusalem qu'à Washington, qu'à Dakar, qu'à Moscou, qu'à Pékin. Et je crois que j'ai fait le tour. Mais voilà, c'est pour dire qu'il y a ce rapport qui est de parler du monde entier, depuis n'importe où dans le monde, et de le faire sur une base quotidienne. D'avoir un regard, certes, qui sera un peu français sur le monde, mais qui sera plus dans l'idée de valeur, sans qu'il y ait du jugement, en revenant encore une fois sur la question des faits et de l'information, même si parfois ça peut paraître un petit peu austère, oui.
Et pour boucler avec Mondoblog, moi, mon souhait le plus cher depuis l'existence de Mondoblog, c'est que de cette expérience de blogging naisse l'envie de monter des médias avec une rigueur journalistique plus forte sur le continent africain. Mais si 10 ans après, on n'a quasiment aucun exemple, on en a un en Côte d'Ivoire d'un média qui aurait été monté par deux mondoblogueuses, qui en fait ont déjà splitté, donc comme quoi c'est compliqué, mais dire la vérité pour un média sur le continent africain, c'est très compliqué. Et donc finalement, c'est là où un média comme RFI a une fonction, c'est que nous, on est extérieurs, et les autorités de ces pays-là ne peuvent pas nous tomber dessus de la même façon qu'ils peuvent tomber sur le dos de leurs compatriotes.
Après, on n'arrête pas de dire l'Afrique, mais il y a plein de disparités selon les pays, effectivement. Oui. Et il y a des pays pour lesquels c'est très compliqué, très mouvant, et d'autres dans lesquels ça évolue vite, bien, etc.
Voilà, alors juste sur l'idée de faire collaborer les mondoblogueurs ensemble, donc il y a évidemment, enfin, je ne sais pas si ça a eu lieu pour toutes les sessions, mais il y a des temps de formation où vous arrivez à réunir aussi des blogueurs des quatre coins du monde. Et je voudrais juste citer un projet en fait, éditorial qui a eu lieu à Campus Tours il y a quelques années. On avait diffusé dans le cadre d'une programmation d'été des contenus qui ont été produits par des blogueurs. Donc il y avait eu des contenus produits par les blogueurs, l'association des blogueurs du Cameroun, je crois.
Et puis ABC,
voilà. Et puis des contenus aussi produits par une blogueuse libanaise, parce qu'elle faisait un projet éducation aux médias dans son établissement scolaire.
Donc il y a l'école primaire, je crois.
Oui, voilà. Donc c'est des petites choses, mais c'est vrai que ça crée des liens entre les blogueurs aussi. Ça, il y a vraiment cette idée de famille qui, moi, me semble intéressante. Et en effet, oui, si ça peut aboutir à des choses plus large, ce serait bien. Mais je crois aussi que la façon dont est perçu Mondoblog est très différente d'un pays à l'autre. Je pense qu'en France, mais quasiment personne ne connaît Mondoblog.
Et quasiment personne ne connaît RFI, si on peut se rassurer.
Mais une grosse partie du trafic vient de France, hein, de Mondoblog.
Parce que j'avais l'impression, en discutant avec des blogueurs d'autres pays, que dans certains pays d'Afrique, dire j'ai un blog Mondoblog, c'est... Ah bon, ouais, c'est un truc...
C'est un marqueur sur le CV, ouais. Oui. Ça a aidé pas mal de blogueurs à être embauchés parfois dans leur pays. Ça fait une sacrée carte de visite.
Il y a plein de trucs marrants comme ça. On a fait un concours il y a moins d'un an. Et en fait, bon, comme ça fait 10 ans qu'on recrute des gens, les premières personnes qu'on a formées ont souvent créé des associations nationales de blogueurs. Donc déjà, on a finalement dans notre communauté de blogueurs, on a souvent des fondateurs d'associations nationales. Tu en as cité une au Cameroun, mais c'est le cas au Mali, c'est le cas en Côte d'Ivoire, c'est le cas au Togo, c'est le cas au Bénin. J'en oublie certainement, mais en fait, quasiment à chaque fois, il y a un mondoblogueur qui est derrière. Et ça, ce n'est pas nous qui avons poussé à ça, hein, c'est des initiatives personnelles. Et donc, pour revenir à ce concours, en fait, chaque fois qu'on fait un concours, depuis 2-3 ans, depuis un peu plus, il y a des prépas Mondoblog. C'est-à-dire que les associations de blogueurs invitent les gens qui veulent concourir à venir s'entraîner avant d'envoyer leur texte pour concourir. Donc on a plein de petites initiatives comme ça qui sont complètement autonomes, qu'on n'avait pas pu envisager au départ, mais qui sont mises en place. Au chat, par exemple, on a les photos cette année des gens qui sont en session en train d'essayer de parfaire leur texte, de tout recommencer à zéro pour revoir leur copie et qui sont accompagnés par d'anciens blogueurs. Mais cela dit, alors oui, pour revenir sur le truc pas très connu en France, c'est vrai. Néanmoins, on a un trafic qui est assez important. On a quand même pas mal de blogueurs qui sont en France, beaucoup de la diaspora. Tu vois, par rapport à ce que je t'ai décrit tout à l'heure, c'est à savoir que de remplir une fonction par rapport à l'endroit où on est. Former des gens au blogging en France, par rapport à l'environnement média dans lequel on évolue, finalement, a beaucoup moins de sens, si ce n'est de continuer, comme partout ailleurs, à encourager la liberté d'expression, à tirer vers le haut la création de contenu. Mais en France, c'est beaucoup plus simple d'accéder à ça.
Non, puis l'idée, c'est pas forcément que de créer une plateforme que la plateforme et que le média soit connu. Non, Mondoblog, c'est à la fois un média, mais c'est aussi et surtout, j'ai envie de dire, un projet école, un projet d'accompagnement sur un an, voire plus, de blogueurs et de blogueuses du monde entier. L'idée, c'est pas que Mondoblog soit connu, c'est plutôt que les voix qui s'expriment sur Mondoblog aient un endroit pour apprendre. Et pour elle être entendue, si le blog ou la blogueuse ou le blogueur accède à la notoriété sans que Mondoblog soit fondamentalement connu, j'ai envie de dire, c'est pas grave et tant pis, et c'est pas l'objectif premier. Si on voulait faire connaître Mondoblog, on ferait de la pub sur Mondoblog, ouais. Mondoblog, Mondoblog.
Et nous, on n'a jamais mis la pression à aucun blogueur pour qu'il y ait un résultat de chiffres, de nombre de vues, de trafic. C'est pas du tout dans nos obsessions. Et d'ailleurs, ça nous est arrivé tout au long de l'histoire de Mondoblog de devoir faire barrière par rapport à des directions qui, pour eux, la manière la plus efficace de lire l'importance de ce projet peut être de regarder la fréquentation. Nous, on a toujours résisté. Voilà, ça reste une école, mais une école où les gens prennent des risques, hein, parce qu'il y a peu d'écoles de journalisme où on va vous inciter à publier vos productions. Moi, j'ai plusieurs exemples d'écoles où on avait des blogs, mais qui étaient des blogs privés. Là, tout est public, hein, vous faites l'erreur devant tout le monde. Il y a la notion d'école dans le sens où il y a une notion de promo. Donc, les gens qui font partie du même concours ont un rapport les uns aux autres assez fort. Il y a la notion de communauté, puisqu'on a toujours incité les différentes promos à échanger entre eux, les anciennes promos à encadrer les plus jeunes. Et puis, voilà, c'est ça. Tout à l'heure, donc, tu parlais des formations internationales. Ça, c'est un concept qui est fondateur dans l'idée de Mondoblog, mais qui est malheureusement un concept qu'on a abandonné faute d'argent. Puisque, en gros, une formation internationale Mondoblog, c'est 100 000 euros.
L'idée, c'était qu'à une époque, Mondoblog rassemblait une cinquantaine de blogueurs, souvent dans une capitale africaine. Ils étaient invités, nourris, logés pendant quasiment une semaine. Avion aussi, le déplacement était pris en charge, avec l'idée de les réunir et de créer cet effet promotion, etc. Mais comme le dit Simon, c'est très lourd. C'est très compliqué à organiser. Et puis là, en plus, dans la crise sanitaire actuelle, c'est encore plus difficile à envisager. Donc, on s'est plutôt dit qu'on allait faire des formations d'ordre un petit peu plus restreintes, mais souvent, effectivement, encore une fois, dans une capitale africaine, mais en invitant juste les blogueurs ou les blogueuses du pays, voire du pays voisin, lorsque ce sont des petits pays qui sont, ou des pays qui sont côte à côte. Voilà.
Ouais, en fait, ça a été vraiment très compliqué, cette période où... En gros, on a compris que ce serait qu'on n'arriverait pas à financer juste avec RFI ces formations-là. On a toujours eu des partenaires extérieurs, mais on espérait depuis le début en fait que ce soit pris en charge à 100% par RFI. À partir du moment où même les autres bailleurs nous ont un peu laissé de côté, ça a été très très dur parce qu'on a gelé le projet en fait. On a arrêté de recruter. On a dit, bon, bah, on ne va pas recruter des gens en leur faisant une promesse qu'on ne pourra pas tenir. Et ça a été le cas de la saison 6, donc la saison juste après toi. C'est pendant la formation de cette saison-là qu'on a compris qu'on n'aurait pas d'argent pour pouvoir faire leur formation. Et donc, on a changé notre fusil d'épaule et malheureusement, le Covid n'a pas arrangé le truc puisque maintenant, on s'est lancé comme défi d'aller, on va dire, entre 4 et 5 fois par an dans des capitales africaines pour organiser des événements avec les associations de blogueurs nationaux dont je te parlais tout à l'heure. Donc, on a réussi à le faire au Tchad maintenant, il y a 10 mois. On devait le faire à Douala, au Cameroun, là, maintenant.
Oui, en ce moment.
Voilà. Pas possible à cause
des frontières
COVID.
Sont toujours fermées, ouais, du Cameroun.
Donc, on va essayer de reprendre le rythme dès que le Covid sera un peu calmé. Mais voilà, l'idée, c'est ça. Et ce qui était intéressant au Tchad, c'est qu'on était vraiment dans une coproduction d'événements. C'est-à-dire que maintenant, les blogueurs savent que s'ils veulent organiser quelque chose, nous, on peut essayer de venir en appui et on peut essayer de créer, d'amplifier l'événement de par la notoriété du projet, de par la notoriété des RFI. Et on peut coproduire dans le sens où on peut les aider aussi, dans la gestion du son, dans la gestion des visuels, dans le contact d'invités de prestige, dans ce genre de choses, pour qu'eux-mêmes puissent monter en notoriété dans les pays dans lesquels ils écrivent.
Voilà, faire un côté un peu barcamp, réflexion commune, échange de pratiques, et puis identification de voies nouvelles. En fait, c'est ça la richesse de Mondoblog, c'est d'avoir des gens qui n'osaient pas ou n'avaient pas de fenêtre pour s'exprimer et qui, sur une plateforme de blog, réussissent à prendre la parole. On peut donner quelques exemples. Ça va être, on a une blogueuse, je le prends souvent cet exemple, mais je trouve qu'il est vraiment symptomatique. C'est une blogueuse qui vit à Tombouctou, dans la moitié nord du Mali, et qui parle de questions de féminisme. Pour ceux qui connaissent un peu le nord du Mali, c'est vraiment pas le premier sujet dont on attendrait qu'une femme s'exprime sur ce sujet-là dans le nord du Mali, où il y avait encore une incursion djihadiste il y a quelques années, quoi. Ça va être de voir comment des Haïtiens racontent comment ils luttent contre les fake news, et que voilà, il y a certains mondoblogueurs qui ont lancé un petit outil de vérification de liens pour identifier des sources fiables de sources douteuses, un peu dans l'esprit du décodex du monde. Des exemples comme ça, on peut en trouver plein, et c'est ça vraiment la richesse, c'est d'avoir ces individualités qui trouvent un endroit sur lequel s'exprimer, que nous on les accompagne, et qu'après, si ça peut donner naissance, ça peut créer une vocation déjà professionnelle, c'est génial, et si ça peut trouver faire que l'alchimie se fasse et qu'il y ait des débouchés pour ces gens-là ou les projets que ces gens portent, on peut dire qu'on aura tout gagné, quoi.
Et moi, je veux juste revenir sur le chat parce que c'est un chouette exemple. La première formation Mondoblog, on l'a faite donc il y a 10 ans. À cette occasion, j'ai rencontré Salim Azim Hassani, donc qui était un jeune mec.
Tchadien, donc.
Tchadien. Vraiment un geek. Le geek tout timide, qui ne s'impose pas, qu'on ne remarque pas. Et puis, donc, je ne le voyais pas du tout pendant les journées de formation. Mais par contre, le soir, une fois qu'on n'était plus en groupe et qu'on pouvait discuter en tête à tête, on a passé vachement de temps ensemble. Et moi, je lui montrais ce que je savais, lui montrais un peu ce qu'il faisait. On a vachement échangé, on a sympathisé assez vite. Et en fait, à l'époque, il n'y avait aucun truc qui pouvait m'aider à sentir que ce mec allait monter en puissance. Et il y a au moins 5 ou 6 ans, il a créé un lieu unique à N'Djamena, il n'y en a pas d'autre, qui est un espèce de repère pour tous les geeks, avec une connexion Internet gratuite, des espaces pour pouvoir travailler, des ateliers pour pouvoir fabriquer des machines, un endroit où on échange le savoir, un endroit où on fait des conférences, un endroit où on fait des promos, des prépas Mondoblog.
Une super terrasse, il paraît.
Une super terrasse. En fait, c'est devenu le lieu incontournable du numérique à N'Djamena. Et donc, c'est en ça que même si ça a été très dur d'abandonner les formations internationales, c'est en ça que notre nouveau mode de fonctionnement a du sens. C'est-à-dire que l'idée n'a jamais été, de toute façon, de créer ce projet pour que nous, on soit au centre. Hein, donc, on peut être flatté de se déplacer comme ça chaque année, et d'être un peu comme le grand frère de tous ces jeunes blogueurs chaque année et tout ça. Mais c'est pas le but en fait. Et donc, l'idée de changer maintenant, c'est de mettre en valeur les historiques de Mondoblog, les faire monter en puissance, mais d'être au devant de la scène, de manière à pouvoir disparaître à un moment ou un autre pour que tout ça se soit autonome. Et c'est un peu, si on continue la parabole de ce que je disais sur RFI, finalement, le but ultime pour RFI, c'est de disparaître.
Et alors, avant que cette prophétie ne se réalise, peut-être...
Voilà, le site, c'est mondoblog.org et on vous invite aussi à vous abonner au podcast de l'Atelier des médias. Donc, dans Podcast Addict, Google Podcast, Deezer, Spotify, enfin ce que vous voulez, vous cherchez l'Atelier des médias de RFI et vous tomberez sur nous.